La revue de presse internationale de ce lundi 15 novembre, l'actualité qui fait la une des grands journaux de la planète, c'est avec Sébastien Duhamel aujourd'hui. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Et le premier sujet très commenté dans la presse du monde ce lundi, c'est le bilan de la COP26 qui s'est achevé ce week-end à Glasgow. Sébastien, un bilan très mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire pour la COP.
Oui, et après deux semaines de négociations, rares sont ceux qui voient la COP à moitié pleine, disons-le, la majorité voit plutôt la COP à moitié vide, avec un sentiment de frustration qui revient dans les journaux de la planète, en Grande-Bretagne par exemple. Frustration contre l'Inde et la Chine pour avoir dilué l'accord, c'est ce qu'affiche la une du Guardian. New Delhi et Pékin ont obtenu le retrait de la notion de sortie progressive de l'énergie charbon, remplacée par la notion de réduction progressive. Le Guardian, comme beaucoup d'autres, revient sur l'émotion du président de cette COP, Alok Sharma, presque réduit aux larmes face à un accroc de dernière minute qui l'empêchera de décrocher un accord satisfaisant. En Italie, le Corriere della Sera nous parle de sa colère. Le Frankfurter Allgemeine évoque une pilule amère à la dernière seconde.
Le journal nous donne une illustration concrète des enjeux aujourd'hui.
Oui, direction le village indien de Lilori-Patra, dans l'état du Jharkhand, le cœur indien de l'extraction du charbon. Là-bas, il y a plus de 100 ans, ce charbon justement s'est enflammé dans la terre, sous le village. Image de désolation, les incendies dégagent une grande chaleur, empoisonnent l'air à travers les fissures du sol et dévorent les maisons. La combustion du charbon, c'est un enfer pour les locaux, mais pour beaucoup, c'est aussi le seul moyen de subsistance, explique le Frankfurter Allgemeine. Alors, il s'interroge et nous interroge. Les résolutions de Glasgow sont-elles suffisantes pour empêcher ce qui se passe à Lilori-Patra ne se répète à grande échelle?
Oui, mais Sébastien, il y a aussi ceux qui défendent cet accord auquel est parvenue la COP26.
Oui, face aux réactions négatives, Boris Johnson a notamment défendu le pacte climat, c'est ce que nous dit The Independent. Le Premier ministre britannique a certes admis sa déception, mais il a plutôt insisté sur le fait que l'accord sonne le glas futur de l'énergie charbon, comme le relate également The Daily Telegraph. Et parmi les défenseurs, il y a bien sûr les Indiens eux-mêmes. The Hindu nous livre les explications du ministre de l'Environnement, Bhupender Yadav. Il réaffirme que la réduction progressive du charbon est un droit pour les pays émergents en lutte contre la pauvreté. En Chine, le Global Times rappelle évidemment la déclaration commune de la Chine et des États-Unis qui ont convenu d'accélérer l'abandon progressif du charbon au cours de cette décennie. Une déclaration qui a surpris le monde entier, écrit le journal chinois, pour qui cette COP est d'ailleurs un franc succès. Le Global Times estime que près de 200 pays ont bel et bien saisi la dernière et meilleure chance de l'humanité à Glasgow, contredisant, on peut le dire, à peu près tout ce qu'on lit par ailleurs. Le Global Times affirme également que les scientifiques, les climatologues ont salué la détermination sans précédent à s'attaquer au réchauffement de la planète, en particulier d'ailleurs celle des pays en développement, dont la Chine et l'Inde, souligne le journal. Le Shanghai Daily est lui plus nuancé mais pas moins optimiste. Il nous dit que cet accord garde en vie l'espoir de limiter le réchauffement à 1,5
degré. Il y a aussi ceux, Sébastien, qui retiennent les avancées dans le domaine de l'économie cette fois.
En Italie, notamment, le Corriere della Sera salue le virage vert des marchés. Malgré l'issue de la COP26, banques, fonds et multinationales parient sur l'économie verte. L'investissement responsable devrait passer de 38 000 milliards de dollars à 53 000 milliards de dollars d'ici 2025, explique le journal italien. Aux États-Unis, le Wall Street Journal note quant à lui que les marchés du carbone ont reçu un vrai coup de fouet, car les gouvernements se sont mis d'accord sur des règles longtemps bloquées concernant la manière dont les pays et les entreprises peuvent échanger des crédits d'émissions de carbone au-delà de leurs frontières. En effet, développe le Wall Street Journal, presque tous les pays ont approuvé samedi des règles préliminaires sur la manière dont les gouvernements et les entreprises peuvent créer, valoriser et échanger des crédits, cela afin de réduire leurs émissions nettes dans un système d'échange mondial. En somme, pour le Wall Street Journal, cet accord ouvre la voie au commerce mondial du carbone.
Et puis, autre sujet qui fait la une de la presse internationale aujourd'hui, Sébastien, c'est bien sûr le calvaire des migrants qui se poursuit à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.
Oui, les journaux européens y reviennent évidemment, mais c'est encore la presse polonaise qui le montre le mieux. Comme le site du journal Dziennik, qui donne à voir ces masses de milliers de migrants rassemblés le long de la frontière, au poste Brusgi-Kuznica notamment. À voir également dans la Gazeta Wyborcza. Les journalistes disent que les migrants ont vécu dans des tentes par une température de 0 degré pendant environ une semaine, que ces migrants ont manqué de nourriture et d'eau. Ils déclarent vouloir franchir légalement la frontière, une colonne d'un kilomètre, comme raconte le journal. Et pour lui, les manœuvres de Minsk sont indiscutables. Sur le Twitter du ministère de la Défense nationale biélorusse, lit-on, vous pouvez notamment voir comment les médias du régime manipulent cette situation. On y voit en effet des femmes avec des enfants qui ont été forcés de s'approcher du fil de fer barbelé placé à la frontière et forcé de s'y asseoir. des journaux polonais qui reviennent sur les nouvelles sanctions évoquées par l'Union européenne à l'encontre de Minsk. Et il semble presque les attendre.
Les sanctions qui doivent être prises dans la journée par l'Union européenne. Merci beaucoup Sébastien Duhamel, c'était la revue de presse internationale sur RFI.